Radio Okapi.
Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi, plus de 411 corps ont été enterrés après la catastrophe naturelle survenue à Kalehe au sud Kivu. La délégation gouvernementale venue de Kinshasa qui est arrivée sur place ce mardi a distribué aujourd'hui l'assistance aux sinistrés de Nyamukubi et de Bouchouchou. Le président de la RDC entame ce mardi une visite officielle de 48 heures à Gaborone. Félix Tshisekedi Tshilombo prévoit un échange avec son homologue du Botswana et qui veut s'inspirer du modèle économique de ce pays dans l'industrie du diamant. Notre invité, c'est le coordonnateur de la maison d'Artemisia au Maniema, Amissi Abdallah, affirme que dans le cadre de la lutte contre le paludisme, cette maison sensibilise et distribue des produits Artemisia pour faire face à cette maladie. Madame, messieurs, bonsoir. Catastrophe naturelle de Kalehe dans la province du Sud Kivu. Plus de 411 corps ont été déjà enterrés et les recherches se poursuivent en ce moment. La délégation gouvernementale venue de Kinshasa et qui est arrivée sur place ce mardi a distribué l'assistance aux sinistrés de Nyamukubi et de Bouchouchou. Plus de 200 ménages ont reçu à l'occasion des vivres et des non-vivres, de l'argent et des bâches pour se constituer des abris provisoires. Les processus de délocalisation est en cours actuellement à Kalehe. C'est un appel d'Emmanuel Elmejo Kabedi.
L'assistance du gouvernement central aux sinistrés de Kalehe est composée essentiellement de vivres et non-vivres ainsi que de cercueils. Les sacs de riz, de farine, de sacs de haricots, les bidons d'huile ainsi que les savons et les pagnes pour les femmes qui ont tout perdu. Environ 200 familles de sinistrés sont enregistrées à Nyamukubi et Bouchouchou. Chaque ménage a reçu, des mains du ministre Modeste Mutinga, une somme de 2 500 000 francs congolais. L'hôpital général de référence de Nyamukubi a reçu 25 millions de francs congolais pour la prise en charge médicale de plus de 50 blessés. Le ministre des Affaires humanitaires a remis 34 millions de francs congolais pour l'achat des bâches devant servir des abris provisoires. Par ailleurs, toutes les personnes qui occupent actuellement les sites impropres doivent être délocalisées sur des sites moins dangereux qui sont déjà ciblés. Côté bilan, à ce jour, plus de 411 corps ont été repêchés des décombres et enterrés. Les recherches sont en cours. Signalons que parmi les rescapés figurent deux bébés de moins de 5 mois tirés de décombres alors que leurs mamans respectives sont portées disparues. Emmanuel Lamejoa Kabedi, de retour de Kalehe, Radio Okapi.
Sud Kivu, encore la route menant vers la frontière burundaise de Kavimvira dans les territoires d'Uvira est actuellement inondée d'eau des marais et de la petite Ruzizi, rendant ainsi difficile le trafic sur cette voie de communication. Les voyageurs qui fréquentent la frontière de Kavimvira et même du côté de Gatumba au Burundi par cette route frontalière se plaignent actuellement. Ils appellent par conséquent les autorités à trouver une solution à ce problème. C'est ce que nous explique à Uvira, Fiston Goma Mayabala.
David Biamungu Msaraza est petit commerçant transfrontalier entre la RDC et le Burundi. Un conducteur de moto vient de l'éclabousser dans les eaux sur la partie anciennement appelée zone neutre à la frontière de Kavimvira. Imagine. La montée des eaux rend difficile le trafic pour les piétons et les motards. Il y a des accidents. Moi-même, j'ai été victime. J'étais sur une moto qui m'a fait tomber dans l'eau dans un endroit où le trou était très profond. Je me rendais au travail. Je me suis mouillé tous les corps. L'État congolais doit trouver une solution parce qu'il a des experts pour franchir cette partie inondés de la route. Certains voyageurs sont obligés de se déchausser et de traverser à pied jusqu'au poste de la DGM. Arrivés de l'autre côté à Gatumba, ils font face au même calvaire. La rivière a traversé la route bitumée pour se jeter du côté du lac Tanganyika. Par ailleurs, la situation n'a pas changé à Kitemesho depuis la rupture de la RN5 dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Les véhicules utilisent la déviation improvisée par les chauffeurs. Du côté du territoire de Fizi, l'économat général du diocèse d'Uvira a repris depuis hier lundi le transport par son canot rapide MV Danilo Cartazi pour faciliter le trafic lacustre entre Uvira et Baraka. La RN5 entre les deux villes se trouvant dans un profond état de délabrement. Depuis Uvira, Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, 6 personnes ont péri dans un éboulement de terre survenu hier lundi autour de la cité minière de Rubaya, territoire de Masisi. Ce bilan provisoire a été dressé par le porte-parole du gouverneur de province. Un bilan controversé dans la mesure où les sources locales ne l'ont pas encore confirmé. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko affirme qu'une délégation du gouvernement provincial s'est rendue ce mardi sur place pour s'enquérir de la situation. C'est ce que nous explique Denise Lukeso.
Le drame est survenu hier lundi en fin de matinée à 11h locale sur la mine de Bibatama à environ 5 km de Rubaya Centre. Les périmètres miniers 47-31 de Bibatama étaient attribués à la société minière de Bisundu SMB pour son exploitation. Les victimes seraient les caseurs artisanaux clandestins qui ont été surpris par un glissement de terre. Les porte-parole du gouverneur des provinces parlent de 6 morts comme bilan provisoire, dont 3 corps déjà déterrés et 3 autres qui restent coincés sous la boue. Mais d'autres sources sur place à Rubaya ne confirment pas ces bilans. Elles indiquent qu'une centaine de personnes qui étaient en activité sur ces sites se sont enfouies quand elles ont aperçu l'avancée de cet éboulement et s'en sont sorties indemnes, ajoutent nos sources. Le colonel Guillaume Ndike indique que le gouvernement a dépêché une délégation ce matin sur place dans la zone de l'accident pour s'inquiéter de ce qui s'est réellement passé. Cet incident est survenu alors que la ministre nationale des Mines avait suspendu le 15 mars dernier toutes les activités d'exploitation minière de la SMB dans cette région de Rubaya. Goma, Denis Bukeso, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, le président de la République démocratique du Congo entame ce mardi une visite de 2 jours à Gaborone. L'agenda de Félix Tshisekedi Tshilombo prévoit un entretien avec son homologue du Botswana et l'organisation d'un forum économique entre les deux pays. Des experts congolais impliqués dans la relance de l'AMIBA sont du voyage. Le chef de l'État congolais compte s'inspirer du modèle économique du Botswana dans l'industrie du diamant, n'est-ce pas, Cynthia Bachizina Bizana?
Aujourd'hui, aucun diamant brut n'est exporté du Botswana qui a des usines de transformation locales. Cela grâce à un partenariat avec la multinationale minière De Beers. Explication de Claude Kabemba, directeur de l'organisation SAROA.
De Beers avait pratiquement 51% et le Botswana 49%. Et ils ont créé une compagnie. La deuxième condition, c'était que quand vous aurez récupéré votre investissement, nous devons changer le partage. Donc après pratiquement 25 ans d'exploitation du diamant, De Beers a récupéré son investissement. Et ce qui s'est passé, il y a eu des renégociations. Une des demandes, c'était que maintenant, nous devons ajouter la valeur sur notre diamant localement. Donc le De Beers a accepté de venir mettre au Botswana l'industrie de transformation du diamant. Et le partage de bénéfices, ça a aussi changé. Le partage est maintenant de 51 à 49 en faveur du Botswana.
Au-delà de ce partenariat avec la société minière De Beers, c'est surtout la bonne gouvernance dans le secteur extractif du Botswana qui a porté la réussite de l'industrie locale du diamant. Réussite tributaire des milliers d'emplois créés localement et surtout créatrice d'un véritable marché intérieur du diamant qui attire des acheteurs du monde entier.
Économie à présent. Certains commerçants du Kasaï central se plaignent actuellement du fait que leurs marchandises traînent depuis des mois dans les installations de la SNCC à Likasi dans la province voisine du Haut-Katanga. Devant ce qu'ils qualifient de l'indifférence de la SNCC, ils appellent par conséquent le ministre des Transports et Voies de Communication à décanter au plus vite leur situation. On écoute l'un d'eux, Joseph Kenga, a été joint par Jean Ganduka Bongo.
Nous, commerçants de Kasaï Central, nous vous informons que nous avons payé nos marchandises de Likasi pour Kananga. Nous avons 400 tonnes de fretin et de poissons salés, mais depuis cela fait de 8 mois à 1 an et demie que nos marchandises traînent encore au sol de Likasi. Si on demande à la société de transport SNCC, pourquoi nos marchandises traînent jusqu'à ce moment? Ils nous répondent rien. Ils n'ont rien à nous dire. Alors, pour cela, nous demandons au ministre des Transports de nous aider pour évacuer ces marchandises le plus vite possible parce que ça commence à se détériorer.
J'ajoute que la SNCC dit qu'elle manque actuellement des locomotives et des wagons et que la vitesse commerciale ne suit pas à cause de la lenteur de la rotation. Économie encore, le gouvernement provincial de la Lomami a signé le week-end dernier un contrat de bail foncier avec la société des biocarburants SARL SBBC pour la culture des plantes dénommées Castor en vue de la production du biocarburant utilisé dans l'aviation. La signature de ce contrat intervient pendant que l'étude de faisabilité est en cours. À Mbujimayi, Esther Ndalafina.
C'est dans les trois mois qui viennent que les portes de la société des biocarburants SARL SCBC seront ouvertes dans la province de Lomami. La signature du contrat de bail foncier a eu lieu le week-end dernier entre le gouverneur de province Nathan Ilunga et le directeur de cette entreprise, Guy Robinson. Le contrat prévoit, dans la première phase, l'exploitation de 9000 hectares pour la culture des plantes dénommées castor qui permettent de produire du biocarburant utilisé dans l'aviation. Le site de Mvunaï dans le territoire de Cabinda a été identifié pour la première phase de ce contrat. D'après Guy Robinson, directeur de la société congolaise de biocarburant SARL, ce partenariat prévoit plusieurs avantages, dont notamment la maximisation des recettes à travers les différentes taxes et redevances à payer par son entreprise. Il va également absorber le chômage à travers l'emploi progressif d'au moins 2000 personnes. Ce contrat peut aussi faire accélérer les travaux de réhabilitation de la route Cabinda jusqu'au port de Mpanyamutombo dans la province de Sankuru, présentée comme option favorable pour l'acheminement des produits à partir du port de Matadi au Congo central. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Partons maintenant pour l'Ituri où des agents des différents centres d'inscription de la CENI qui ont œuvré récemment lors de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Djougou déplorent le retard de paiement de leur salaire. La semaine dernière, ils ont exprimé leur ras-le-bol dans une interview accordée à Radio Okapi. Certains parmi eux disent vivre dans des conditions extrêmement difficiles après cette opération d'identification des électeurs. D'autres, faute de moyens de transport, n'ont pas pu rejoindre leurs familles respectives. Le responsable provincial de la CENI les appelle à la patience et au calme. Reportage à Bounia d'Ezekiel Mouzalia.
Parmi ces agents temporaires de la CENI, dont cette femme, certains sont des opérateurs de saisie, des chefs de centre déployés dans différents centres d'enrôlement, menaient l'opération d'identification des électeurs dans les territoires des Djougou. Ils réclament leur prime de prestation des 2 mois et 10 jours, mais aussi leur prime de risque. La plupart d'entre eux ont du mal à rejoindre leur famille à Bounia par manque de transport, une situation qui les expose aux menaces des groupes armés actifs dans la zone. L'un d'eux s'exprime sous anonymat.
Nous voulons seulement appeler nos autorités provinciales de la CENI à l'humanisme, de nous rétablir dans nos droits, à nous payer l'intégralité de notre salaire et aussi nous ajouter un prime de risque. Étant donné que nous avons travaillé dans des contextes de sécurité sans avoir eu un seul euro.
Contacté, le responsable provincial de la CENI appelle les agents au calme et indique que la paie débute progressivement selon les zones de prestations. Jimmy Anga.
Dans les contacts, tout était clair. Que le montant que la CENI paierait, c'est toute indemnité y comprise. Et la CENI va payer ce fonds. La CENI n'est jamais restée avec la dette de qui que ce soit.
La CENI dit qu'elle va payer d'abord 1 mois en attendant la réception de tous les matériels déployés dans les différents centres d'enrôlement. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justice à présent, avec la situation inquiétante dans la prison centrale du cinquantenaire de Bandundu. 38 détenus sont morts depuis janvier dernier des diverses maladies. 3 détenus sont morts également la semaine dernière. Il s'agit en majorité des assaillants arrêtés à Kwamout et à Bagata. La société civile qui a alerté ce mardi matin déplore également la surpopulation dans cette maison carcérale. Dieudonné Nzimbu, membre de cette structure citoyenne, est au micro d'Irène Boma.
Depuis le début de l'année 2023 jusqu'à ce jour, nous comptons pratiquement 38 cas de décès dans la prison du cinquantenaire de Bandundu. Pour de maladies diverses, la semaine qui vient de se terminer, il y a eu 3 cas, dont le cas le plus récent est celui de vendredi, qui a succombé d'une crise d'épilepsie. Il y a un surpeuplement causé par les assaillants de Kwamutu, qui sont venus en nombre important. La capacité de prise en charge de la prison est de 250 prisonniers. Et aujourd'hui, nous sommes à 456. Vous comprendrez avec moi que déjà la prise en charge va poser problème sur le plan nutritionnel, sur le plan des conditions hygiéniques. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a assez de cas de décès. Nous saluons l'esprit managérial du nouveau comité de gestion de la prison qui a aussi initié le suivi sanitaire au sein de la prison qui jusque-là essaye tant soit peu de faire des tests sur différentes maladies que souffre le prisonnier pour trouver solution à l'urgence. Sinon, il y a péril en demain. Il faudrait que l'État congolais vienne en rescousse à la prison du cinquantenaire. Sinon, on risque de perdre la population carcérale.
Actualité internationale.
Au Soudan, au moins 16 personnes ont été tuées dans des affrontements entre ethnies Haoussa et Nouba, a rapporté ce mardi après-midi l'agence de presse soudanaise Suna, ce qui a poussé du coup le gouverneur à décréter un couvre-feu dans l'état du Nil Blanc frontalier du Soudan du Sud. Cet état, qui s'étend de Khartoum, la capitale, à la frontière du Sud, a été jusqu'ici épargné par la guerre entre les deux généraux rivaux aux commandes depuis leur putsch de 2021, un putsch qui a fait des centaines de morts, principalement dans la capitale et au Darfour. Et puis, au Burundi, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a comparu hier après-midi devant un tribunal qui l'accuse de saper la sécurité nationale et d'insulter le chef de l'État. C'est ce que rapporte aujourd'hui une source judiciaire. Tout le monde était surpris hier de le voir, a raconté un témoin sous couvert de l'anonymat, avant de préciser que l'accusé portait l'uniforme vert des prisonniers burundais.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la maison d'Artemisia dans la province du Maniema. Amissi Abdallah affirme que dans le cadre de la lutte contre le paludisme, cette maison sensibilise et distribue actuellement des produits Artemisia pour faire face à cette maladie. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Amissi Abdallah, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Pourquoi la maison Artemisia procède à ces jours à la sensibilisation et la distribution de vos produits à différentes couches de population?
Nous avions procédé à cette cérémonie aujourd'hui parce que le monde entier célèbre le 25 avril de chaque année la journée internationale de lutte contre le paludisme. Vu notre casquette de la SBEL, nous œuvrons aussi sur cette activité-là de lutte contre le paludisme. C'est pour cette raison que vous avez vu certains dons que nous avions offerts à certaines couches de population pour la journée d'aujourd'hui.
À part le produit Artemisia, qu'est-ce que vous avez ou vous donnez encore à la population pour lutter contre la malaria?
En tout cas, ce que nous donnons aux gens, il n'y a rien que l'Artemisia, parce que c'est la plante qui soigne efficacement le paludisme. Et si du moins que tout le monde consommait l'Artemisia comme nous d'abord de la maison, je pense bien que les rapports que vient de nous fournir l'OMS en 2022, le taux de mortalité dû au paludisme ne devrait pas être à ce niveau élevé comme ça.
Où est-ce que vous trouvez cette plante?
La plante là, elle est cultivée par notre maison et c'est là où nous produisons localement et puis nous traitons ça localement, enfermé dans des enveloppes imprimées localement et nous donnons comme ça aux vulnérables. Pour le moment, nous avons juste fait un champ d'un hectare, un don qui nous a été donné par Excellence évêque catholique, que nous le remercions beaucoup, à Katako. Et c'est là où nous avions cultivé ensemble avec l'équipe et c'est là où nous avions produit l'artémisia. Des mesures que nous venons de distribuer gratuitement aujourd'hui à la population de Kin.
L'espace d'un hectare, est-ce que la production est suffisante?
L'espace est vraiment insuffisant, mais avec les moyens de bord, vu le moyen que nous travaillons avec, c'est ce qui nous a fait qu'on fasse le 1 hectare là, parce qu'on n'a pas un financement avec nous jusque-là, nous vivons avec les moyens de bord. Comme on nous dit en français qu'une belle femme ne donne que ce qu'elle a.
Le produit d'Artemisia que vous distribuez à la population, c'est gratuit ou c'est commercial?
Avec le stade actuel, nous donnons gratuitement, parce qu'avant d'abord de vendre un produit, nous devons d'abord passer par des essais cliniques que nous sommes en train de terminer déjà cette phase. Actuellement là, nous sommes dans une phase d'expérimentation et de vulgarisation. Nous devons d'abord vulgariser la plante pour que tout le monde soit un meilleur consommateur d'Artemisia et là nous allons éradiquer radicalement le paludisme pour toute la population de Maniema.
Que peut être votre demande pour que vous produisiez beaucoup?
Nous sollicitons que les gens de bonne volonté puissent nous assister. Ça nous aiderait à aller loin et à avancer beaucoup plus. début d'activité. Et là, nous aurons à prendre même toute la population de Kindu en charge.
Et qui sont censés consommer les produits Artemisia?
Les gens qui sont censés utiliser les produits Artemisia, je vais vous dire, madame, c'est tout le monde, sans exception ni discrimination. Il y a juste des normes médicinales que nous devons juste respecter. Entre autres, les femmes enceintes de moins de 3 mois ne doivent pas encore consommer l'Artemisia. Ils doivent attendre que leur grossesse puisse atteindre 4 à 5 mois et au-delà, là, ils peuvent consommer l'Artemisia. À part ça, en tout cas, tout le monde est censé de consommer l'Artemisia.
Ça, quelles conséquences?
En tout cas, madame, pour le moment, je n'ai jamais vu une conséquence négative par rapport à l'Artemisia. Parce que si c'était négatif, le ministère de la Santé ne devrait pas autoriser que l'Artemisia se vende. Même l'OMS Afro, nous travaillons avec elle et nous autorise de prendre l'Artemisia. Et nous consommons ça et d'autres hôpitaux, d'autres médecins commencent déjà à prescrire l'Artemisia pour ceux-là qui ont déjà des résistances sur le paludisme.
Comme je suis en train de voir là, c'est comme du thé, l'Artemisia.
Oui, c'est comme du thé, c'est comme du café, mais ça reste Artemisia. Vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre même du poudre, du lait, si ce n'est pas contre-indiqué par votre médecin.
À ceux-là qui ne vous connaissent pas et qui vous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites?
D'ailleurs, le thème que nous avons pour cette année, pour la lutte contre le paludisme, c'est « Zéro palu, je m'engage ». C'est ça. Et j'appelle à tout le monde de s'engager vers l'Artemisia pour que les zéro palus là puissent être justifiés et que ça se concrétise sur le plan physique. Parce que la malaria, c'est une très mauvaise maladie qui tue facilement et qui crée d'autres maladies mortelles. Que tout le monde consomme l'Artemisia et je sais bien que personne ne serait dessus.
Monsieur Amis Abdallah, merci.
C'est nous qui vous remercions, madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de la maison d'Artemisia au Maniema. Amissi Abdallah a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelikipe Lamondo.
Merci Pascal Masserica. Prochain rendez-vous avec l'actualité en français sur Radio Okapi à suivre à 19h, heure de Kinshasa. Ça serait donc le dernier bulletin des nouvelles de cette soirée. Okapi Sport.